Philadelphie. Nous arrivons maintenant à l'épître adressée par le Seigneur à la sixième assemblée, celle de Philadelphie. Elle n'est mentionnée nulle autre part dans le Nouveau Testament, et l'on ignore par qui elle fut établie. Elle n'a pas fait grand bruit dans le monde, mais les paroles du Seigneur nous font connaître sa fidélité et comment il l'apprécie. Écoutons ce qu'il dit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici. Je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous pouvons remarquer d'abord que le Seigneur n'adresse aucun reproche à l'ange de cette assemblée. C'est comme à l'assemblée de Smyrne. Cette dernière venait après l'assemblée d'Éphèse, qui avait abandonné son premier amour. Elle passait par la persécution et demeurait ferme, et le Seigneur l'exhorte à ne rien craindre et lui fait des promesses de vie. De même, Philadelphie vient après Sardes, qui avait la réputation de vivre tout en étant dans la mort. Philadelphie avait peu de force, mais le Seigneur l'aimait parce qu'elle gardait sa parole et son nom. Ainsi, ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur ferme dans l'épreuve et fidèle dans la faiblesse. En écrivant à l'assemblée de Philadelphie, le Seigneur Jésus se présente d'un côté comme étant le Saint et le Véritable. Ce sont des titres qui appartiennent à Dieu, comme nous le voyons en plusieurs passages. Ésaïe 40, verset 25.
À qui donc me comparerez-vous et serai-je égalé, dit le Saint.
Ésaïe 57, verset 15.
Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité, et duquel le nom est saint. J'habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus.
1 Jean 2, verset 20.
Et vous, vous avez l'onction de la part du saint, et vous connaissez toutes choses.
Et 1 Jean 5, verset 20.
Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Mais Jésus est Dieu, et c'est pourquoi il prend ses titres. Le Saint veut dire celui qui est absolument séparé de tout mal. Jésus est saint en lui-même. Et il a manifesté ce caractère sur la terre dans tout ce qu'il fait. Le véritable signifie celui qui est vrai en toute chose, dans sa personne, se faisant connaître comme le vrai Fils de Dieu, dans ses paroles et ses actes, faisant connaître Dieu comme amour et lumière, et révélant le Père. Qu'il est précieux de connaître cette glorieuse et adorable personne, séparée du mal et qui nous en sépare, qui est vrai, en sorte que nous pouvons mettre une entière confiance en ce qu'elle dit, et par elle connaître la vérité. Mais d'un autre côté, comme homme, Jésus était la postérité de David. Apocalypse 22, verset 16.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
Il a donc la clé de David, c'est-à-dire l'autorité absolue pour gouverner, comme étant le Christ promis. Si nous lisons au chapitre 22 d'Ésaïe, du verset 15 au verset 23, nous y voyons qu'un certain Shebna était revêtu d'une charge dans la maison royale à Jérusalem. Mais n'en ayant usé que pour satisfaire son orgueil et pour se glorifier dans sa force et ses richesses, le prophète Ésaïe lui fut envoyé de la part de l'Éternel pour lui déclarer qu'il périrait misérablement et que sa charge lui serait ôtée et donnée à Éliakim, serviteur de l'Éternel. Et il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je mettrai ton intendance en sa main, et il sera pour père aux habitants de Jérusalem et à la maison de Juda. Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et personne ne fermera, et il fermera, et personne n'ouvrira. Éliakim était donc revêtu de l'autorité pour administrer la maison de David, pour admettre et recevoir dans la faveur et dans le service du roi ceux qu'il jugeait dignes, pour exclure les autres, et cela sans appel. Il était ainsi le type du Seigneur Jésus. Au premier chapitre de l'Apocalypse, le Seigneur dit de lui-même « Je tiens les clés de la mort et du Hadès », c'est-à-dire qu'il a le pouvoir souverain sur la mort et le lieu invisible où vont les âmes séparées du corps. Il a la puissance de ressusciter les morts. Apocalypse 1:18.
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du Hadès.
À Pierre, il avait donné les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, verset 19, c'est-à-dire l'autorité d'ouvrir l'entrée du royaume aux Juifs d'abord, puis aux gentils par la prédication de l'Évangile, et c'est ce que Pierre a fait, comme nous le lisons au chapitre 2 et 10 des Actes des Apôtres.
Matthieu 16, verset 19, « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
J'ai cité ces divers passages pour bien faire comprendre que les clés désignent l'autorité d'introduire ou d'exclure. Le Seigneur Jésus se présente à l'assemblée de Philadelphie et à nous comme ayant cette autorité souveraine. Il ouvre la porte de la bénédiction, de la foi, du salut aux âmes, et personne ne peut l'empêcher de bénir et de sauver. Acte 14, verset 27.
Et étant arrivés et ayant réuni l'assemblée, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.
Tous les efforts de Satan et du monde sont impuissants pour arrêter le cours des bénédictions qu'il répand. Nous le voyons dans les Actes. Les persécutions que subirent les chrétiens et les apôtres ne firent que répandre l'Évangile. Lisez en particulier Actes chapitre 8, versets 1 à 8.
Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir, et menèrent un grand deuil sur lui. Or Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons, et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules, d'un commun accord, étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville-là.
Actes chapitre 11, versets 19 à 21.
Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est à des Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Cypriotes et des Cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs annonçant le Seigneur Jésus. et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre ayant cru se tournèrent vers le Seigneur. Le Seigneur ouvre la porte à ses serviteurs pour exercer leur ministère, et Satan ne pouvait la fermer. C'est ainsi que Paul disait « Je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires » 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. Combien cela est précieux pour les serviteurs du Seigneur, et comme cela doit nous encourager à prier pour que Dieu leur ouvre la porte pour annoncer la parole. Colossiens 4, verset 3. Priant en même temps aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ, mystère pour lequel aussi je suis lié.
Il me semble voir une grande porte ouverte, la porte du salut, et les prédicateurs de l'Évangile appelant les âmes à entrer, et tout un flot entrant. Et puis, Satan et le monde, les incrédules, les méchants, faisant tous leurs efforts pour pousser cette porte et la fermer, mais sans succès. La main du Seigneur, invisible pour eux, la tient ferme, et elle ne bouge point. Mais d'un autre côté, s'il ferme, qui ouvrira? Ah, cela est terrible, il disait aux Juifs. Dès que le maître de la maison aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte, en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que répondant il vous dira « Je ne vous connais pas ». Quelle puissance humaine pourra ouvrir? Aucune. On sera dehors, hors de la bénédiction et de la joie. Luc 13, versets 25 à 29.
Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que répondant il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes », alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il dira « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetez dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident et du Nord et du Midi, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu. »
Et aux vierges folles, que leur arrivera-t-il? La porte sera fermée, et il dira « Je ne vous connais pas ». La porte de la grâce aura été fermée et personne n'ouvrira. Ce sera le sort réservé à ceux qui n'auront pas voulu écouter au temps convenable. C'est ce qui va bientôt arriver au monde incrédule. Combien cela est sérieux. Demandons au Seigneur que bien des portes soient ouvertes à ses serviteurs et que bien des âmes soient sauvées. Le Seigneur Jésus s'était présenté à l'assemblée de Philadelphie, le Saint, le Véritable, celui qui a l'autorité absolue pour ouvrir et fermer. Écoutons maintenant ce qu'il est dit aux saints qui composaient cette assemblée. La première chose qu'il déclare, c'est « Je connais tes œuvres », mais il ne dit pas quelles sont ses œuvres. Seulement, quand nous lisons la suite, nous trouvons que le Seigneur dit « Moi, je t'ai aimé ». Nous pouvons en conclure que c'était des œuvres qui lui étaient agréables, provenant de cœurs qui lui étaient dévoués. Il n'est pas nécessaire que les œuvres que l'on fait soient grandes et attirent l'attention et l'admiration des hommes. Non, des œuvres humbles, sans apparence, accomplies chaque jour dans les diverses positions de la vie, mais ayant pour motif l'amour du Seigneur, voilà celles dont il peut dire avec satisfaction « Je les connais ». Et ces œuvres-là, le plus jeune et le moindre des croyants peut les accomplir. Il est bien évident que les saints à Philadelphie ne brillaient pas par l'apparence aux yeux du monde. « Tu as peu de force, leur dit le Seigneur. » Mais cet état de faiblesse attirait la sympathie de Jésus. Dans la faiblesse et l'impuissance des siens, il aime à montrer sa force à lui. Le bienheureux apôtre Paul savait cela. Il disait « Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi, car quand je suis faible, alors je suis fort. » 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Les Philadelphiens avaient peu de force, ils étaient peu nombreux, pauvres peut-être, sans talent, et dans l'assemblée, il n'y avait peut-être que peu de dons marquants. mais ils avaient l'essentiel sans lequel tout le reste n'est rien. Ils avaient ce que chacun de nous individuellement et ce que chaque assemblée nous devrions avoir. Et quoi donc ? Tu as gardé ma parole, dit le Seigneur, et tu n'as pas renié mon nom. Voilà ce que Jésus voyait dans leur vie et dans leur cœur, et ce qu'il appréciait par-dessus tout. Leur faiblesse ne les avait pas empêchés de rester attachés à la parole et à la personne de Christ, malgré les efforts de Satan et les persécutions du monde. Nous aussi, nous avons la parole, et nous avons appris à connaître le nom précieux de Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. Mais il faut garder la parole, la garder dans son cœur, et pas seulement la voir dans sa maison ou dans son intelligence. Garder veut dire qu'on l'estime comme une chose de haute valeur, et il ne faut pas non plus renier le nom de Jésus. Au temps de l'assemblée de Philadelphie, les souffrances causées par les persécutions faisaient que parfois ceux qui avaient fait profession d'être chrétiens reniaient Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mort ou à la prison qu'on est exposé si l'on confesse Christ, mais on est exposé aux moqueries, au dédain, au mépris de ses compagnons, de ses amis qui sont encore du monde, et c'est souvent bien difficile de le supporter. Il arrive plus d'une fois qu'on voudrait servir le Seigneur, mais on craint l'opprobre et l'on a honte de lui. Pensons alors à l'assemblée de Philadelphie, qui n'a pas renié le nom du Sauveur qu'elle aimait, et demandons à Dieu la force nécessaire afin d'être en état de nous déclarer franchement pour Christ. Et voyez ce que le Seigneur dit ensuite à l'assemblée de Philadelphie. Puisqu'elle a peu de force, et que cependant elle est fidèle, le Seigneur ajoute : Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est lui-même qui ouvre un chemin à ceux qui sont faibles, et personne, Satan ni le monde, ne peuvent les empêcher d'y marcher en paix et en liberté. Un faible chrétien pourrait dire : Comment pourrais-je être fidèle et servir le Seigneur, moi qui suis si ignorant et chétif ? On va se moquer de moi, me mettre à l'écart si je confesse le Seigneur. N'aie pas peur, cher ami, le Seigneur qui sait que tu n'as pas de force sera avec toi et t'ouvrira le chemin. À côté de l'assemblée à Philadelphie, aimée et approuvée du Seigneur, il y avait une autre congrégation, un autre ensemble d'hommes réunis sous les ordres d'un autre maître et qui avaient des prétentions religieuses. Ils sont appelés la synagogue ou la congrégation de Satan. Quel terrible nom ! Qu'étaient-ils ces hommes ? Ce n'étaient pas des païens. Non, ils se disaient juifs, c'est-à-dire se vantaient de croire en un seul Dieu, d'avoir la parole de Dieu, une loi et des ordonnances données de Dieu, d'être le peuple de Dieu, et avaient une grande apparence religieuse. Mais ils mentaient. Ils n'étaient plus le peuple de Dieu, car ils avaient rejeté le Christ, le Fils de Dieu, Jésus, annoncé par les prophètes, et c'est ainsi que, malgré leur vanterie, ils étaient la synagogue de Satan. Toutes leurs prétentions religieuses n'étaient que mensonges aux yeux du Seigneur. Il en est de même aujourd'hui. Se dire chrétien, parce que l'on a une certaine forme religieuse, qu'on a été baptisé, et que l'on fait ainsi partie de l'Église professante, n'est pas selon la vérité, il faut avoir reçu Christ dans son cœur. Un temps viendra où toutes les fausses prétentions seront jugées, et où les vrais chrétiens seront reconnus, afin que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé, disait le Seigneur à son Père en parlant de ses disciples. Et ici il déclare de ceux qui se disaient juifs et qui méprisaient les chrétiens, ils connaîtront que moi je t'ai aimé, qu'il est précieux pour le cœur de savoir que le Père nous aime et que Jésus nous aime. C'est maintenant un secret entre lui et nous. Le monde n'en sait rien, mais quand Jésus viendra, que nous serons manifestés avec lui en gloire, le monde entier saura combien nous avons été aimés. Il est dit de Jésus que tout genou fléchira devant lui. Nous serons avec lui dans la même gloire, et c'est ainsi que le monde reconnaîtra que les pauvres saints, si méconnus et méprisés maintenant, étaient vraiment dignes d'honneur. Alors se réalisera cette parole, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds. Le Seigneur signale ensuite un autre caractère de l'assemblée de Philadelphie. Tu as gardé la parole de ma patience, dit-il. Que signifient ces paroles, ma patience, la patience de Jésus? Essayons de le comprendre. Que désire le Seigneur? C'est d'avoir avec lui ses bien-aimés dans la gloire. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Jean 17, verset 24. Voilà ses paroles. Mais il attend avec patience le moment que Dieu a fixé pour cela. Et que désirent les saints? D'être avec leur Sauveur, loin du monde et du péché. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Mais comme Jésus attend, ils attendent aussi avec patience. C'est ainsi qu'ils ont la même pensée que Jésus et qu'ils gardent la parole de sa patience, c'est-à-dire qu'ils attendent sa venue. À ceux qui gardent la parole de la patience, le Seigneur fait une promesse. Un temps solennel approche, une épreuve terrible va venir sur la terre habitée tout entière. Le Seigneur ne nous en dit pas la nature, mais ce seront des calamités effrayantes qui fondront sur ceux qui habitent sur la terre, autrement dit ceux dont le cœur, les pensées, les habitudes sont dans les choses d'ici-bas, qui sont citoyens de la terre et n'attendent de joie que celles qui s'y trouvent. Mais ceux qui gardent la parole de sa patience sont du ciel, d'où ils attendent le Seigneur. Le Seigneur tarde, pourrait-il penser, et il semble avoir l'agitation du monde, les bruits de guerre, de révolution et d'anarchie, que de terribles événements vont avoir lieu. C'est vrai, mais les saints ne seront plus sur la terre, ils seront avec le Seigneur. Quel bonheur de pouvoir s'appuyer sur cette précieuse promesse, « Je te garderai ». Et les paroles suivantes nous font bien voir que c'est en venant prendre les saints près de lui qu'il les préservera de toutes ces calamités à venir. Il dit « Je viens bientôt ». C'est ce que l'apôtre rappelait aussi aux Thessaloniciens qui avaient été convertis pour attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et c'est bientôt. Chaque jour nous rapproche de cet heureux moment. Mais à cela, le Seigneur ajoute une exhortation. « Tiens ferme ce que tu as, dit-il, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a donc un danger. » Et des ennemis sont là, tout prêts à ravir aux fidèles ce qu'ils ont de précieux, ce qui fait leur ornement et leur gloire. Ce que tu as, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que le Seigneur nous a donné, sa parole, sa connaissance, son amour, la jouissance de ce qu'il est, l'assurance du salut, de notre relation d'enfance auprès du Père, l'espérance de sa venue, toutes les saintes vérités de la parole. Voilà ce qu'il faut tenir ferme, comme la chose la plus précieuse, et que Satan voudrait bien nous enlever. Si vous aviez un objet de valeur qui viendrait de votre mère, combien n'y tiendriez-vous pas? Si quelqu'un voulait vous le ravir, avec quelle énergie vous le retiendriez? Supposez que quelqu'un voulût vous persuader qu'après tout, cela n'a pas tant de valeur et se moqua de ce que vous y attachez un si grand prix. Avec quelle indignation vous le repousseriez? Eh bien, ce que le Seigneur nous a donné vaut infiniment plus que tous les trésors de l'univers. Tenons-le donc ferme, en dépit de tous les efforts et les ruses du diable. La couronne, c'est ce que le vrai chrétien a déjà. C'est Christ qui est sa gloire et sa couronne aux yeux de Dieu, et en quoi il peut se glorifier. Et cette couronne-là que le monde méprise ou méconnaît, elle brillera éternellement sur le front du racheté. Ici-bas, tenons donc ferme pour Christ et ne permettons à personne de nous ôter la gloire de le confesser et de le servir. Après cela, viennent comme toujours les promesses que le Seigneur fait aux vainqueurs à ceux qui ont tenu ferme ce qu'ils avaient. Et il faut bien nous souvenir que, quoique tous ceux qui croient soient sauvés, il y aura une rémunération et qu'une récompense spéciale sera donnée à ceux qui auront été fidèles au milieu des difficultés. Celui donc qui vaincra sera établi comme une colonne Dans le temple de mon Dieu, dit Jésus, la colonne est un emblème de stabilité, de force, en même temps qu'un ornement. Ceux qui, sur la terre, ont peu de force, brilleront dans le ciel comme des monuments impérissables de la grâce. Rien ne pourra plus les ébranler. Ils orneront le sanctuaire céleste, le temple du Dieu du Seigneur Jésus-Christ, et ce sera pour l'éternité. Il ne sortira plus jamais dehors. En second lieu, le Seigneur dit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu », en signe qu'il appartient au Dieu du Seigneur Jésus-Christ. C'est un sceau indélébile. Nul ne peut effacer ce que Jésus a écrit sur eux, et il est heureux de les amener à son Dieu. Le Seigneur ajoute « Et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu ». Ils appartiennent à cette cité décrite au chapitre 21 de l'Apocalypse, cité céleste et divine dans son origine. Ils en sont les parties constituantes et non pas simplement les habitants, car la cité, c'est l'épouse, la femme de l'agneau, l'assemblée. Et enfin, le Seigneur dit, « Et mon nouveau nom, son nom comme Rédempteur ressuscité et glorifié. Voilà ce qui attend le fidèle vainqueur. » Être à jamais en la présence de Dieu, dans le temple où brille sa gloire, comme appartenant à Dieu, au ciel et à Christ, et associé à son précieux Sauveur dans cette position de félicité et de gloire. Ne vaut-il pas la peine de servir le Seigneur et de souffrir pour lui pendant un peu de temps ici-bas, en attendant un avenir si beau ?